Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Back in your life. Bon, allez, pour la suite, donc enfin la suite ou le début si vous arrivez maintenant du live, la sueur actu et FAQ. Donc on s'intéressait à Stipe Miocic qui, oui, dans la tourmente avec l'UFC, qui se pose des questions. Peut-être va-t-il partir au NFC. En tout cas, il a répondu d'un air songeur à un poste de l'organisation. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si tout se passe bien. Visiblement, tout a l'air nickel. Là aussi, au niveau de l'ordi, tout est nickel. Tous les voyants sont au vert. On est ensemble. C'est beaucoup plus fluide maintenant. Et bah, formidable. Ah. Ça fait plaisir.
Enfin, oui. Touchons du bois parce que généralement, c'est après quelques minutes que ça commence à péter des câbles. Donc,
Exactement. Touchons du bois. Je suis bien d'accord avec Ross. Mais là, ça m'a l'air tranquille. Il y a notre cher Big Ben qui a tout validé aussi. Ah. Donc c'est formidable. Donc Stipe Miocic est un peu vexé parce que l'UFC ne lui accorde pas une revanche immédiate face à Francis Ngannou, et il l'a précisé, et c'est vrai que je trouvais ça assez intéressant, mais il est à 1-1 mine de rien contre Francis. Donc c'est vrai qu'il pourrait aussi vendre ça de la part de l'UFC. Moi, pour ma part, n'hésitez pas à dire d'ailleurs ce que vous en pensez dans le, je sais pas si c'est exactement en commentaire, enfin bref, dans le chat, ce que vous pensez de ça. Mais c'est vrai que le fait de laisser à Stipe Miocic le temps un petit peu de se poser, de reprendre du poil de la bête et d'arriver, tu vois, une fois qu'il y a eu une espèce de petite guerre nucléaire entre tout le monde, je trouve que c'est pas mal non plus. Parce que comme ça, mine de rien, il va pouvoir revenir une fois que t'auras soit Francis qui se sera réaffirmé comme, je vais pas dire l'un des plus grands de tous les temps, mais comme le vrai champion qui a fait une ou deux défenses de ceinture, et lui arrive avec son statut de véritable légende.
Et puis, mais je trouve qu'il y a aussi un truc qui, pour moi, va à l'encontre de ce que essaie de vendre Miocic, qui est du coup un troisième combat contre Ngannou parce qu'ils ne sont à 1-1. C'est que il a utilisé du coup lui-même l'exemple de Daniel Cormier versus lui-même. Du coup, il y a la trilogie. Et le truc, c'est que les déroulés des combats sont aussi beaucoup plus, comment dire, le deuxième et troisième combat, c'était beaucoup plus serré, quoi. Donc oui, il y a eu des finitions, mais les combats étaient vraiment serrés, c'était très disputé, et du coup, bah, tu te disais, ouais, clairement, avec quelques ajustements, Cormier, le troisième, il peut le gagner, et avec des ajustements qu'il a réussi à faire, bah, il peut aussi vraiment, comment dire, mettre le clou Stipe Miocic. La différence, moi aussi, je trouve, elle est aussi là, c'est que le deuxième combat contre Francis Ngannou, qui est le dernier en date, bah, c'était juste un massacre, quoi. Donc, et les gens pourront peut-être répondre, bah oui, mais comme l'était le premier. Oui, mais je suis pas totalement en fait d'accord, parce que pour moi, le premier, c'était genre, t'as les 4 premières minutes ou le premier round où tu te dis, ok, littéralement, enfin, oui, c'est son surnom, mais t'avais vraiment un prédateur qui chasse un humain, tu vois. Et après, c'est juste que comme il a été vraiment magnifique dans sa manière de gérer le combat, Stipe Miocic, et ben ensuite il a retourné la vapeur, enfin il a renversé la vapeur, et du coup c'était, avec un Francis qui était mort, c'était totalement différent. Mais il y avait quand même cette espèce d'inconnu. Deuxième combat, on a vu que effectivement c'était vraiment c'était le méca Francis Ngannou qui marche sur une ville, tu vois. Donc je trouve qu'au niveau des déroulés des combats, je trouve que ça va un petit peu moins dans le sens de ce que dit Miocic, je trouve, tu vois.
Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Et on a Sacha donc qui nous dit, je pense que c'est pour Stipe une bonne chose, donc qu'il y ait cette pause. Même si avec toute cette préparation, Stipe perd à nouveau contre Francis, ce sera peut-être le début de la fin pour Stipe. Après, personnellement, tu vois, moi je me dis, enfin je me dis, je pense que Stipe aussi le sait, à 38 piges, c'est pas comme si là il en avait encore pour 5 ans, tu vois. Donc quoi qu'il arrive, que ce soit victoire contre Francis, défaite contre Francis, ou même, je sais pas moi, s'il revient entre-temps que Bones devient champion, que Cyril devient champion. Je pense qu'il lui reste 2-3 combats grand grand max à Miocic. Donc il a aussi à mon avis, je pense, tu vois, cette ses managers aussi, hein, le fait de se dire il nous reste pas beaucoup de combats, donc tant qu'à faire, autant avoir le truc le plus intéressant possible. Et on en avait parlé après, que quand il y avait toutes ces discussions de pourquoi est-ce qu'il y a le titre intérimaire entre Derrick Lewis et Cyril Gane, c'est que Stipe aujourd'hui il est un statut et il est un moment de sa carrière, il a plus le temps de prendre des combats intermédiaires, ou je vais pas dire juste pour gagner, mais il faut que ça ait une que ça signifie quelque chose pour lui, pour l'histoire et pour son histoire aussi.
Ah ouais, clairement. Enfin, et je pense plus que ce soit vraiment une question d'argent simplement pour Miocic. Je pense que maintenant il est à l'abri, même si évidemment, enfin, il y a être à l'abri dans le sens où oui, là, ça y est, je pense qu'il a fait des millions, Miocic, mais c'est pas vraiment un argument valable, parce que de toute façon, si on te repropose 5 millions, bah évidemment que tu y retournes, surtout quand c'est ton métier, ce que tu aimes faire, ou etc. Mais effectivement, je pense que là, il faut qu'il passe en mode fédéraire, Miocic, c'est-à-dire que ben, il fait beaucoup moins de combats, c'est-à-dire que déjà, évidemment, comme c'était un poids lourd et un ancien champion, il en faisait peut-être un par an. Mais bah, à la limite, là, il faut vraiment qu'il se dise que c'est ce rythme-là qu'il faut garder, en fait. C'est que bah, là, qu'il laisse effectivement peut-être un peu passer l'espèce de... Encore... Enfin, cool que ça arrive enfin, tu vois, mais de Maelstrom de poids lourd avec Cyril Gane, Francis Ngannou, bah, Inch'Allah, John Jones, si jamais il fait un combat à un moment donné. Peut-être qu'on lui proposera Miocic, d'ailleurs. Mais effectivement, donc, qu'il soit en mode... Bon, j'en prends beaucoup plus espacé des combats, mais par contre, quand je les prends, ce sera un, ça aura une vraie symbolique. Deux, j'ai vraiment du coup bien le temps de me préparer pour le faire. Et puis voilà, et puis trois, du coup, ça lui permet d'engranger, ce qui est pas mal aussi. Mais je pense qu'effectivement, il aurait tout intérêt à passer un peu dans ce modèle-là, quoi, niveau carrière.
Entièrement d'accord. Là, selon toute vraisemblance, donc Cyril contre Derrick Lewis, enfin, selon toute vraisemblance, non, c'est acté, le 7 août prochain, main event de l'UFC 265. Ensuite, eh ben, il n'y aura pas de combat donc entre le vainqueur, enfin Cyril, contre Francis Ngannou pour l'unification, donc qui arrivera en septembre, parce qu'en septembre, donc c'est l'UFC 266 avec. Et là, on sera tous les trois, je préfère prévenir, on sera en live avec Polydome, enfin même tous les quatre, parce qu'il y aura Big Ben aussi, pour assister au retour du grand frère Diaz, Nick Diaz, qui revient pour un même pas co-main event, Coco main event de 5 rounds, Cocorico Nick Diaz de 5 rounds face à Robbie Lawler. En octobre, là ça y est, ça vient de tomber, donc ce sera l'UFC de retour sur la Fight Island, pay-per-view, non, enfin...
Pas de pay-per-view, justement.
Pas de pay-per-view UFC numéroté qui ne sera pas diffusé en pay-per-view outre-Atlantique. Bonjour à tous, il y a Saul qui nous rejoint, bien évidemment. Ça va être un banger. Ben oui, ça va être un banger. Banger on banger. Bref, on sera là pour vous tenir au courant par rapport à ça. Donc en octobre, Jan Błachowicz contre Glover Teixeira, main event. Co-main event, Aljamain Sterling, Petr Yan, numéro 2. Et ensuite... Madison Square Garden pour le retour de l'UFC et le pay-per-view de novembre. Et là, c'est là où on a peut-être le combat pour l'unification chez les lourds. Même si personnellement j'ai des doutes, je pense plutôt que l'UFC va opter pour Kamaru Usman contre Colby Covington numéro 2.
Ouais, et ouais, je sais pas pourquoi, ouais, je me dis aussi, je sais pas ce que t'en penses, mais pour le combat d'unification poids lourd, peut-être même en décembre, non? Il y a pas de chance que ça se passe en décembre, parce
ouais,
que je me dis,
moi je dirais plutôt décembre,
l'unification monstre entre le gobeur de planète comment dire, Francis Ngannou, et celui qui aura gagné le combat entre Lewis et Cyril Gane. Je me dis en espèce de, tu sais, leur show qui font vraiment souvent, leur show vraiment de fin d'année limite 31 décembre, je me dis pourquoi pas, ça peut être un move de l'UFC.
Entièrement d'accord. Et puis pour Miocic, tranquillement, qu'il patiente pour affronter le vainqueur, sachant que pour finir un petit peu sur Stipe et ses amphis de départ, personnellement, moi s'il devait partir, ce serait le Bellator ou rien, parce qu'au NFC, il n'y aurait personne, et à part ternir quelque part, tu vois, son héritage, ce serait compliqué pour lui. Quand je dis ternir, c'est il doit rouler sur tout le monde au NFC. Enfin, il va pas faire un combat contre Vera, et même s'il s'impose par décision, tu vois, les gens, ils seront... Ah, il était quand même temps qu'il parte à l'UFC. Alors qu'au Bellator, il y a quelques petits combats intéressants, je trouve. Enfin, intéressants,
si, si.
Ou
ouais,
alors
gros,
des petits sympathiques, tu vois. Même, c'est pas intéressant sportivement, mais ça fait partie des trucs où... Curiosité peut-être malsaine. Je regarderais Fedor contre Stipe Miocic, par exemple.
Ouais, ça, oui, curiosité malsaine. Je pensais que t'allais dire Sergei Karitonov, et honnêtement, j'aurais
Oui.
regardé par curiosité aussi.
Ouais.
Mais non, mais en vrai, il y a des combats. Enfin, que ce soit même chez Congo, que ce soit, enfin, non, il y a des combats vraiment intéressants, effectivement, au Bellator. Je suis carrément d'accord. Et je suis absolument d'accord aussi que ONE FC, c'est chaud, c'est chaud. Les poids lourds du ONE FC, c'est vrai que c'est un niveau en dessous quand même des plus grosses organisations.
Exactement. Et on a le Haywire qui poursuit pour arriver au Charles Oliveira TBD pour le moment. Non, ça devrait être justement en décembre, Rust. Donc c'est vrai que là, on a peut-être un petit embouteillage, quoique, parce que l'UFC, c'est vrai que par le passé, a déjà fait plusieurs pay-per-view au mois de décembre. Donc c'est vrai que la carte historiquement assez importante du 31, là, si t'as Poirier, Charles Oliveira, je pense qu'ils le mettent forcément en main event. Donc, et le titre des lourds, tu peux pas mettre ça en co-main parce que c'est quand même une catégorie extrêmement importante. Donc, soit début janvier, parce que c'est vrai que l'UFC a généralement du mal par contre pour ses cartes de janvier quand ils sont des pay-per-view. À voir, en tout cas. On a quelqu'un qui a un pseudo bien trop Peggy 18 pour être prononcé ici. Je suis le seul à être hypé par Patricio Pitbull versus AJ McKee. Non, 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 AJ McKee, pas du
Non,
tout.
ouais.
Ça a lieu ce week-end. Et c'est vrai que là, le Bellator qui sera face à l'UFC. À mon sens, a le main event le plus intéressant du week-end parce que pour
Oui,
l'UFC, là,
oui.
c'est. Je peux dire qu'il racle les fonds de tiroir, mais Sean Strickland contre Uriah Hall en middleweight.
Non, pour un main event, c'est quand même, c'est très chaud.
C'est
On va
léger.
pas
Mais
se
surtout que j'ai
mentir.
du mal à comprendre pourquoi il y a peut-être eu un désistement, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat, mais pourquoi Uriah Hall se retrouve face à Sean Strickland après avoir battu Chris Weidman?
Bah, bonne question. Bonne question. Mais effectivement, par contre, je suis d'accord avec celui dont on ne doit pas prononcer le nom et dont je ne connais pas le nom, du coup, notre internaute. Mais c'est clair que là, en termes de main event, ce week-end, je suis beaucoup plus hypé par Pitbull versus McKee. Parce que clairement, AJ McKee, c'est. On tient peut-être vraiment, vraiment, vraiment quelqu'un. Il me semble qu'il est toujours invaincu, AJ McKee,
Ouais.
je crois. Bon, bah, les frères Pitbull, on les présente plus. Machine de guerre, machine à tuer, les mecs sont. Quand ils sont là, t'es sûr qu'il y a du spectacle. Donc, ah non, par contre, c'est clair que là, en termes de main event, le Bellator régale ce week-end. C'est clair.
Ah,
Et je suis vraiment
voilà.
curieux, honnêtement, vraiment, je suis curieux de voir le résultat. Parce que si McKee gagne, c'est un truc de ouf quand même. Hein.
C'est ça.
Et
C'est
là, pour
en...
le coup, les.
Vas-y.
Je veux dire que du coup, pour le coup, les vues sur l'UFC sont évidemment, elles seront plus que légitimes parce que les combattants de l'UFC respectent énormément les frères. Frères. Mais c'est toujours étrange. Mais
Contrairement
ouais,
au
et du
film
coup,
de
si
Jacques
McKee
Audiard,
bat.
les frères sisters.
Mais j'y
Hein.
pensais. Et ouais, les Sister Brothers, là. Mais ouais, qui est pas mal d'ailleurs, très bon. Avec des scènes de fusillade dans la nuit qui sont géniales. Je crois que c'est la scène d'ouverture. Mais ouais, et du coup, non, non, franchement, très, très, très intéressant pour un, le Bellator, parce que franchement, là, ils alignent pour le coup un banger. Mais en plus de ça, pour potentiellement, je crois que c'est. Featherweight, je crois. Putain, oui, je crois. Donc pour la catégorie Featherweight, c'est très intéressant aussi parce qu'on a un potentiel gros prospect pour l'UFC avec AJ McKee.
Exactement, et oui, c'est la finale du tournoi. Non, même pas, c'est même pas la finale du tournoi Featherweight, si je ne m'abuse. En tout cas, c'est dans le cadre du tournoi Featherweight. Pitbull défend sa ceinture. Oui, moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que mineur, Pitbull, ça fait un certain temps qu'il est, à mon sens, peut-être le meilleur combattant du Bellator, toutes catégories confondues. L'un des
Ouais,
meilleurs de la
franchement.
planète et qui, en tout cas, qu'aurait de solides arguments face aux champions de l'UFC. Moi, ce qui me. Je te rejoins dans le sens où c'est vrai que c'est quelqu'un. Ce sera jamais une superstar. Alors que McKee, qui est invaincu en carrière, il y a quelque chose pour le
Ouais.
Bellator, et puis même, on va dire, pour le MMA en général, qui pourrait faire, qui serait très intéressant. Soit pour le Bellator, ou soit, comme tu le dis, pour ensuite potentiellement à l'UFC, on peut se dire que là, il y a quelqu'un qui pourrait vraiment réussir cette passerelle Bellator-UFC, arriver on va dire, à son pic à l'UFC, et puis tout nettoyer au Bellator. Donc c'est vrai que ça va être vraiment intéressant. Et puis surtout que là, vraiment, bah, un combat de ce niveau-là proposé par le Bellator, Je vais pas dire qu'ils n'en ont jamais proposé, mais ça faisait très très longtemps. Je vais dire peut-être depuis MVP contre... Non, 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 non. Enfin, soit MVP contre Douglas Lima, soit Amosov Douglas Lima, qui est quand même un petit peu moins tardif.
Ouais. Ouais, ouais, ouais. Oui, effectivement, il faudrait qu'on revoie les affiches. Oui, ils en ont fait des affiches de très haut niveau. Mais là, de ces derniers temps, c'est clair que c'est celle qui, effectivement, me vient à l'esprit comme étant la plus flamboyante et la plus legit, quoi. Donc non, on est LP.
En tout cas, à suivre. De ce côté-là, mon cher Osbien, on va poursuivre sur les questions. Non. Sacha, là, il y a une proposition de Sacha là qui est absolument scandaleuse. Il faudrait d'ailleurs prévenir les modos de le bannir, ce monsieur-là. Un Conor McGregor versus Donald Cerrone 2 pour le retour de Conor serait-il une bonne solution pour l'UFC pour remettre en route Conor et offrir à Donald un bon petit chèque? Ils l'ont déjà fait. Stop. Non, c'est pas possible.
Ils l'ont déjà fait. Vous avez vu comment ça s'est passé. Enfin, c'est-à-dire que c'était vraiment un abattoir. Donc, est-ce qu'un cowboy... Non. En fait, quelle que soit la manière dont on retourne le truc, Cowboy Cerrone, en fait, les gens l'adorent parce que c'est une légende. Mais là, je pense que c'est la fin du cowboy, quoi, tout simplement. Et le truc, c'est que c'était un tune-up fight, comme on dit, c'était un combat de retour pour se remettre un petit peu en jambe pour Conor McGregor lorsqu'il l'affrontait en welterweight. Là, entre guillemets, je pense que Conor, maintenant, il n'y aura même plus vraiment de combat de retour. Enfin, ça va être, maintenant, ça va être soit Poirier, soit un très très gros nom, soit rien. Et je pense que là, comme il est vraiment en train de redescendre tranquillement, mais sûrement, Cowboy Cerrone, ça n'aura plus vraiment grand intérêt, je pense, pour l'UFC, pour Conor. Le seul intérêt, ce serait pour Cowboy, parce qu'il ferait de l'argent, mais je pense que du coup, pas grand monde à part lui ne s'y retrouverait.
Je partage ton avis, Rust. On va devoir attendre ça assez patiemment, en tout cas pour le retour de Conor McGregor. Et puis c'est vrai que pour Cowboy Cerrone,
qui est déjà call-out par Jake Paul, putain, ça va vite. Hein.
Exactement, déjà call-out par Jake Paul. Personnellement, je n'exclus vraiment pas que ce combat-là se fasse tôt ou tard.
Ah oui, non, complètement. Là, il suffit, je pense, que Conor revienne, qu'il perde un combat, et c'est fait. Et je pense que ça se fait. C'est-à-dire que si d'ici là, Jake Paul a toujours sa hype, je pense qu'il suffit que Conor McGregor perde un combat de retour dans peut-être 7-8 mois, 8-9, et je pense que it's on.
It's on. Question par rapport justement, on reviendra là-dessus une fois que ce sera officialisé, on en a un petit peu parlé. Colby Covington, Kamaru Usman numéro 2, on parle pas mal de cette catégorie welterweight, les gens nous demandent de ce qu'on pense de cette revanche, et quel est notre pronostic, est-ce qu'on pense que Kamaru Usman va le refaire?
Ouais, bah je pense que oui. Je pense que oui, parce que même si c'était serré le dernier combat, je pense quand même que Kamaru, je pense que les juges l'auraient donné à Kamaru, je pense. Et là, le truc, c'est que quand on voit à l'âge qu'il a et théoriquement, à chaque fois qu'on revoit Kamaru Usman, il y a une sensation de puissance qui augmente. Enfin, tu sais, c'est juste terrifiant, en fait. Mm-hmm. C'est aussi parce que, du coup, maintenant, il a commencé à travailler avec le mastermind qui est Trevor Whitman. Mais quand on voit la progression de son jab, la progression de ses déplacements, de son efficience en striking, accumulé en plus à sa lutte de mégaport, j'aurais tendance à penser que depuis leur dernier combat, s'il y en a un qui a plus évolué et qui est encore plus un Golgoth entre les deux, je pense que c'est Kamaru Usman, en fait. Et du coup, j'aurais tendance à favoriser Kamaru salement sur une revanche. Sur la revanche.
Ouais, je partage ton avis là encore. Les gars, vous n'êtes jamais d'accord.
On essaye, on va y arriver, vous inquiétez pas.
On va y arriver. Mais je partage complètement cet avis là parce que c'est vrai qu'aussi, le gros problème de Colby Covington, c'est qu'à la différence de Kamaru, qui est peut-être plus actif maintenant que quand il n'était pas champion, ce qui est quand même assez dingue, et face à des adversaires toujours plus chauds, Colby, c'est qu'un seul combat depuis Kamaru Usman. Donc quand je dis qu'un seul combat, c'est depuis décembre 2019. C'est un seul combat et c'est face à Ternoulet qui n'était plus que l'ombre de lui-même. Donc c'est un
Ouais.
petit peu léger, un, à mon sens, pour justifier un nouveau title shot, deux, pour juger d'une progression de la part de Colby Covington, parce que même Prime Tyrone, je pense que c'était chaud pour Tyrone, et là en plus c'était un Tyrone qui n'a vraiment rien apporté et qui s'était déjà fait rouler dessus par Gilbert Burns. Donc on avait vraiment, enfin c'est un combat qui nous a rien appris sur l'état de forme de Colby Covington. Et j'ajoute aussi que Colby Covington là sur ses trois derniers combats, c'est donc Robbie Lawler où on n'a rien appris du tout, Kamaru Usman qui l'a poussé dans ses derniers retranchements. Et Tyrone Woodley. Donc pour moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment très léger pour quelqu'un qui a sur le papier les armes pour pousser Kamaru Usman, mais on n'a pas vraiment appris en plus. Kamaru Usman, lui, de son côté, c'est quand même deux fois Jorge Masvidal et une fois Gilbert Burns depuis. Donc des adversaires différents et surtout une véritable progression dans le sens où on a d'abord Jorge Masvidal, donc son début de collaboration avec.
Trevor Whitman.
Avec Trevor Whitman, merci mon cher Rust. Ensuite, Gilbert Burns, qui est son ancien coéquipier, où Kamaru Usman, et quand même se prend un knockdown et le finit au troisième round. Puis Jorge Masvidal, donc c'était pas vraiment justifié comme revanche parce que c'était, ok, on va pas se mentir, c'était pour l'argent, hein, n'est-ce pas? Mais bon, il a réussi à mettre KO Jorge Masvidal au deuxième round avec sans doute
Magnifique.
le plus gros KO de l'année. Bon, là, enfin, là, il fait vraiment peur, Kamaru. Donc moi, je
Ouais.
suis pour le Colby Covington 2. Il n'y a pas vraiment d'éléments, n'hésitez pas d'ailleurs à nous le dire hein, là, de ce que vous en pensez dans le chat, ou si vous regardez l'Ardif en commentaire sur YouTube, bien évidemment, ce que vous pensez des chances de Colby Covington et sur là où, enfin, les éléments qui vous font dire qu'il pourrait la jouer différemment. Parce que moi, là, j'ai vraiment du mal à voir où est-ce qu'il pourrait aller, enfin, dans quelle direction Colby Covington pourrait aller.
Bah, et puis en plus, alors parce que tu sais, il y a des gens qui pourraient nous dire, ouais, mais Georges Saint-Pierre lui-même dit que quand tu as beaucoup de temps devant toi et que tu le sais, bah, et que tu n'es pas focalisé sur un adversaire en particulier, c'est là où tu développes de manière générale et sans pression tes skills de combattant de la meilleure des manières, de manière optimale. Bah, alors c'est vrai, mais il a un style, Colby Covington, qui fait que je pense que c'est compliqué pour lui de modifier vraiment de manière, là, quand on va le revoir, spectaculaire, où on va être en mode wow, son style de combat. Parce que c'est bah, sa force, c'est son cardio et c'est son travail en volume. Mais ça n'a jamais été, je trouve, un énorme technicien avec un niveau de profondeur technique en striking où tu te disais, ok, clairement, il y a de la progression de ouf, clairement, il apprend de ouf. Et du coup, ben, c'est pour ça que. Par exemple, tu vois, quand Cerrudo, quand il était venu avec un style un peu différent et qu'à un moment donné, c'était karatéka et puis à un autre moment donné, un peu plus boxeur, etc. Mais tu sentais que c'est quelqu'un qui venait de la lutte et qui apprend extrêmement vite et qui a des capacités athlétiques qui font que, littéralement, il peut absorber un style et le rendre. Colby, je ne sais pas s'il a les mêmes facultés physiques qui feraient qu'il peut changer de style. Je ne pense pas qu'il soit quelqu'un de particulièrement explosif. C'est pour ça qu'il a ce style tout en volume et en attrition. Et du coup, ben, je ne sais pas trop ce qu'il. Il peut clairement apporter une nouvelle profondeur en striking, par exemple, en ajoutant beaucoup plus de feintes, en changeant ses déplacements et tout ça. Donc ça, c'est clair. Mais je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est ce qu'on va voir. Et je peux absolument me tromper. Mais du coup, c'est clair que comparé à Kamaru Usman, Ouais, j'ai beaucoup de mal à voir un espèce de Colby Covington 3.0 qui va vraiment nous surprendre. On peut se tromper, mais j'ai du mal
On peut
à
se
le
tromper, mais
voir.
pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas d'éléments tangibles qui nous permettent de nous dire on va voir un nouveau Colby Covington. Rust, oui, il y a des questions aussi sur Adesanya versus Robert Whittaker. On a pas mal de questions là-dessus. C'est vrai que le combat doit avoir lieu. En fait, là, on a un petit embouteillage hein, pour l'UFC d'ici la fin d'année.
Ouais.
L'UFC, oui, c'est vrai que enfin, c'était Adesanya qui avait dit que le premier avait été, s'était déroulé à Melbourne, si je ne m'abuse. Donc, c'était le record de
Il me semble,
l'UFC en
ouais.
termes d'affluence.
Au
Et là,
Marvel Stadium, je crois.
exactement, Marvel Stadium. Et là, Adesanya voulait le faire chez lui en Nouvelle-Zélande. Il y a toujours de grosses restrictions liées au Covid. Moi, j'aimerais bien, mine de rien, que ça se fasse cette année quand même. Parce que
Ouais.
ça avance un peu pour la catégorie. Et puis déjà que c'est... S'il vous plaît, ne m'insultez pas. Je suis pas des masses hypées, en fait, moi, par cette revanche.
Ah ouais?
Bah ouais, même
À cause
si.
de, à cause du combat, à cause de Adesanya qui a perdu et que du coup tu le vois un petit peu moins brillant. Oh.
Bah alors, déjà, en fait, il y a le
Oh
fait
boy.
qu'Adesanya, mine de rien, il est perdu contre Jan Blachowicz, et qu'à la base, le plan, c'était quand même qu'Adesanya ne remette quasi plus les pieds chez les middleweight avant un bon bout de temps.
Ça c'est Eugene Berman qui avait dit ça?
C'était Eugene Berman qui avait dit ça. Bah, Eugene Berman avait quand même dit Adesanya là pour la ceinture, et puis ensuite on s'attaque à Stipe Miocic. Donc Eugene Berman qui est
Ah oui.
l'entraîneur d'Israël
De
Adesanya.
Israël.
Et concernant Robert Whittaker, en fait, je trouve ça dommage, même si c'est vrai que c'était pas du tout le bon timing, qu'il ne l'ait pas fait pour le combat de retour d'Adesanya chez les middleweight. Parce que ça ne convenait pas à Robert Whittaker qui venait, lui, de s'imposer face à Calvin Gastelum. Mais là, je
Ouais.
trouve qu'en fait, que le timing est, tu vois, un petit peu compliqué pour cette catégorie, entre d'un côté un Darren Till, mine de rien, qui a pas pu avoir ce combat contre Marvin Vettori, Adesanya qui
Ah,
a...
c'est chiant ça.
Tu vois, qui a profité justement que Marvin Vettori lui s'impose face à Kevin Holland en short notice pour ensuite affronter Marvin Vettori qui était troisième et avoir une claire décision unanime. Je trouve que je sais pas, la traction, pour moi en tout cas, est pas la bonne, qui fait que je me dis, j'ai vraiment envie de voir ce combat, même si je sais que pour les deux, ça va être particulièrement intéressant. Et différent du premier surtout.
Je vois ce que tu veux dire. Après,
Je
je
veux dire,
pense
ça
que je
devrait, tu sais,
suis
ça devrait être un
peut-être.
combat où on se dit, bah, nuit blanche,
Ouais.
évidemment, tu vois.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Moi, honnêtement, je suis hypé, pour être tout
Ok.
à fait honnête. Ah, ça y est, voilà, on a un désaccord. Mais non, honnêtement, moi, je suis hypé parce que... Juste par rapport au fait que déjà l'état de forme de Robert Whittaker, enfin là il est en mode vraiment il est en mode berserker quoi. Enfin ces 3 dernières performances c'était tellement mais sublime et même si ça a été un peu chaud au début face à Darren Till et les mais après ça du coup il a montré un fight IQ qui était sublime. Il a là tout ce qu'il a montré sur ses 3 dernières prestations ça me le Je suis tellement heureux de voir un Robert Whittaker qui, clairement, pour moi, est donc un Whittaker au top, que j'ai envie de le voir contre n'importe qui et surtout contre la plus haute opposition possible. Et on sait en plus, du coup, que le dernier combat qu'il y avait eu, enfin le seul, mais entre Adesanya et Whittaker, on avait un Whittaker qui était, même s'il l'avait dit avant le combat, qui était, je pense, pas dans les meilleures dispositions, qui s'est fait un peu ébranler par le trash talk et du coup qui a fait un petit peu une José Aldo McGregor. Et j'ai très envie de voir ce Robert Whittaker-là de en ce moment qui se réattaque à un Adesanya qui a. Je pense pas que pour le middleweight ce soit en mode Adesanya maintenant a perdu de sa superbe, il a plus cette aura d'invincibilité parce que c'était Jan Błachowicz en fait. Enfin, c'est chaud, tu vois. Enfin, je pense que c'est compliqué pour les middleweight de se dire ah, c'est bon, il a été battu par Jan Błachowicz en light heavyweight, donc c'est bon, c'est bon, on a le fil rouge et c'est bon, on va pouvoir s'en occuper à notre tour, tu vois. Je pense pas que les gens se disent ça. Donc, je trouve que quand même en middleweight, il a ce petit côté encore, il a encore cette petite aura à Adesanya, même s'il a, entre guillemets, strictement fait le taf dernièrement contre Vettori. Et donc, ben, l'opposition perso, elle me hype, parce que ça va être quand même un magnifique combat, il y a des chances. Et puis, ouais, juste pour ça, parce que ça va être un magnifique combat, il y a des chances. Et c'est déjà pas mal comme raison.
Louis, en tout cas pour lui, Whittaker va lutter cette fois. On a aussi Luffy qui dit si, si, Whittaker va nous livrer un vrai combat cette fois-ci.
Bah ouais, grave, bah oui. Et c'est pour ça. Non, honnêtement, je suis hypé. Très franchement, je suis hypé. Et je sais plus qui disait qu'il a utilisé sa lutte, qu'il allait l'utiliser, sa lutte Whittaker. Putain, ça se trouve, c'est vraiment moi qui suis un peu un petit merdeux, mais j'ai même pas envie en fait. Bah, mais évidemment, parce que je viens du striking, mais même, j'ai juste envie de voir, vu ce qu'il a montré, et particulièrement en striking Whittaker sur ses derniers combats, parce que c'est là qu'il a brillé. J'ai tellement envie de voir un Whittaker 4 points, 1200.0, là, comme il est actuellement, contre Adesanya, quoi.
À,
En
su
striking.
à, su à suivre, en tout cas, question d'Abad Li Jinglian, bon adversaire pour Hamza Chimaev ou pas? Je trouve ça un peu dommage, moi.
Mais oui, et surtout, alors c'est peut-être parce que c'était Walter White, mais moi je suis dégoûté qu'il ait pas accepté le crocodile de Ramzat.
Je suis d'accord.
Et surtout, ce soir... exactement, parce que oui, Rust voulait qu'on en parle. Rust voulait qu'on en parle, et ben on va en parler. Oui. Parce que oui, c'est vrai que Ramzat Chimaev, Anyone, Anywhere.
Bah, Anywhere peut-être, mais Anywhere, visiblement pas. Parce que, ben en fait, mais moi je suis un peu dégoûté parce que. Et on n'en a pas parlé, je crois, dans des podcasts précédents.
Non, mais tu voulais qu'on en parle, c'est pour ça.
Justement, tant mieux. Mais oui, parce que Anyone, Anywhere, bon, bah, ça, c'était la marque de fabrique de Ramzat qui a fait que, et c'était factuel, hein, que pendant son rise, pendant son amenée vers, comment dire, la hype ultime, bah, c'était qu'il prenait tout le monde tout le temps. Et qu'il était chaud pour prendre tout le monde tout le temps. Et c'est vrai, on en a même, nous, des histoires qui traînent, mais qui sont visiblement avérées hein, par des témoins directs, de Ramzat qui, à l'entraînement, qui prend des... OK, comment on va dire ça pour ne mettre personne, mais des très hauts profils et qui sont dans des catégories de poids supérieurs sans aucun problème et qui en fait son affaire. Donc, clairement, et qui était prêt aussi, même au niveau des combats officiels, à prendre n'importe qui. Et il était prêt à prendre des light heavyweight, hein, Ramzat.
Membre du top 5 UFC.
Membre du top 5. Il était chaud. Et là, du coup, en fait, qu'on passe de tout ça, et c'est ce qui faisait son attrait à Ramzat, à Luke Rockhold qui se propose et Ramzat qui fait silence radio. Enfin, tu sais, ça coupe la chic en fait. C'est en mode bah alors. Et je suis dégoûté parce que Rockhold c'est quand même un gros profil. Rockhold c'est quelqu'un qui fait des dingueries aussi. C'est-à-dire que bon bah oui, son menton l'est peut-être maintenant un petit peu à désirer. Et encore qu'il combat aussi des mecs comme Blachowicz et Romero. Enfin, c'est pas évident. Mais ce qu'il fait en striking, ce qu'il fait au sol, sa fluidité dans les transitions, c'est pas n'importe qui, Rockhold. Et pour moi, qui reste quand même, donc, même s'il y avait eu les discussions avec Edwards, il reste sur Gerald Merchert encore, comment il s'appelle,
Ramzat.
Donc, même s'il y avait les discussions de combattre un top 5 en la personne d'Edwards, bah, il reste quand même factuellement sur Merchert. Et donc, Rockhold, ça aurait été la suite parfaite. Et là, je comprends pas. Je pense que ça doit être une histoire de... Il veut peut-être faire ça en welterweight, mais je comprends pas.
Énormément de réactions sur Ramzat. Oui, d'ailleurs, pour le combat, il y avait une question. C'est bien confirmé au niveau de la date. Donc, c'est Répi qui nous dit ça. Oui, c'est pour l'UFC 267 qui se déroulera donc sur la Fight Island d'Abu Dhabi le 30 octobre prochain. Et pour Ramzat, ouais. Il y a quelqu'un qui posait une question et... Enfin, qui avait une remarque assez juste et je la partage aussi. C'est vrai qu'il sort d'un Covid assez compliqué. Donc, c'est vrai que pour lui, directement prendre du crocodile, c'est difficile. Mais, et là, je rejoins Rust encore une fois. Il était quand même censé affronter Leon Edwards numéro 3 de la catégorie welterweight. Là, il affronte quelqu'un qui, à mon sens, doit battre. S'il ne le bat pas, bah, clairement, les gens vont se dire c'est compliqué. Alors que si vous perdez contre le crocodile ou si vous perdez contre Leon Edwards, on peut avoir l'argument de dire, ah, il était comme, par exemple, regardez TJ Dillashaw ce week-end contre Corey Sandhagen. Corey Sandhagen a perdu contre TJ, ce n'est que partie remise pour lui. Personne est en train de se dire, ah, ça va être très compliqué. Si Corey Sandhagen avait perdu contre, c'est peut-être un petit peu fort. J'allais dire Chris Moutinho.
Marlon Vera.
Ouais, voilà. Comme ça. S'il avait perdu contre Marlon Vera, là, tout de suite, vous vous dites, OK, pour le titre, ça va être un petit peu compliqué. Et c'est à mon sens là le problème pour Ramzat, c'est qu'il était sur une ascension tellement, tellement fulgurante et tellement rapide que là, il rentre dans le bain, il devient presque un combattant comme un autre. Regardez, par exemple, Cyril, il a vu une longue pause entre son combat de Corée du Sud et ensuite le combat de décembre. Donc, c'était plus d'un an sans combattre. Et quand il est revenu, numéro 7 mondial, Junior Dos Santos, et l'ascension fulgurante se poursuit. Du coup, vous ravivez un peu la hype.
Wow. La hype.
La hype.
Oui, c'est vrai.
Là,
c'est vrai.
Pour Ramzat, compliqué la hype. Personne...
C'est parce que c'est un bon combattant, Li Jingyang, et personne ne le connaît. Donc, en fait, c'est hyper risqué. Et puis, en plus, j'ai envie de dire, oui, il sort d'un gros Covid. Et si c'est pour ça qu'ils mettent Li Jingyang en face... J'ai envie de dire, bah oui, mais si jamais il combat et qu'il démonte Li Jingyang, on parle de Ramzat, et donc je pense que tout le monde, les fans, l'UFC, parce qu'il est connu pour ça, et Ramzat va être obligé, bah il va combattre 2 mois après, même pas. Et je pense pas que 2 mois après, même pas, si c'est une forme très serrée et que c'est pour ça qu'il est à moitié timide là-dessus, c'est le lendemain, quoi. Enfin, parce que c'est pour ça que je comprends pas trop. Si c'est à cause du Covid, attends, et que du coup il est pas encore en forme, bah, attendons encore 6 mois. C'est triste et c'est terrible. Mais là, s'il combat Li Jingliang et qu'il y a recombat 2 mois après, je pense pas que ça fera une grosse différence si c'est physiquement que ça pêche, tu vois.
Ouais, et remarque aussi de Rano 38, je pense aussi que c'est ça. Il est clairement plus prudent. Il y a quelque chose que seul lui et sa team savent sur sa vraie condition physique.
Ouais, c'est sûr. C'est quasiment sûr qu'il y a ça aussi. C'est quasiment sûr qu'il y a ça aussi. Enfin. Mais du coup, je sais pas, ouais, on a presque envie de dire, mais dans ces cas-là, attendons, parce que c'est vrai que, je sais pas, qu'est-ce qui serait mieux entre attendre ou Li Jingliang, je sais pas. Parce que si on le voit là, Ramzat, et qu'il est très diminué à 20 ou 30%, et qu'il livre une prestation terne, ça fera plus de mal que de bien sa carrière, quoi.
C'est la fameuse mentalité de Fernand qui dit « mieux vaut tomber vers l'avant plutôt que vers l'arrière ». Et d'ailleurs, BioShock qui nous fait aussi une remarque pertinente, c'est mieux de tomber contre BioShock. Un top 5, ça casse pas la hype. S'il perd là, par contre, ça craint.
Bah oui, de ouf. Bah oui, parce que Li Jingliang, le problème, c'est que là, tout le monde est hypé parce qu'il allait combattre Edwards. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de... Même pas casual, mais bah, je pense que là, les gens qui nous écoutent là, à mon avis, la plupart connaissent peut-être Li Jingliang, ou en tout cas, on a entendu le nom. Mais il n'y en a pas beaucoup. C'est pas quelqu'un qui est connu, c'est pas quelqu'un qui a une hype spécialement. Donc, c'est étonnant, quoi. C'est très étonnant.
Étonnons alors.
Mais honnêtement, je pense qu'ils auraient pu, en middleweight ou en welterweight, trouver quelqu'un qui avait une hype, même s'il n'était pas dans le top 15. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui doivent avoir une hype sans être dans le top 15. Trouver, tu vois, bah, sur deux catégories en plus.
Ouais, mais mine de rien, il y aurait peut-être eu potentiellement, même si on n'était pas trop favorable, à Nick Diaz. Mais enfin, tu vois, en fait, juste quelqu'un qui aurait un petit peu apporté soit le retour de la hype en termes médiatiques ou alors sportivement. Et Luke Rockhold, franchement.
En plus, il était chaud, Ramzat.
Ben oui, Ramzat, il était chaud. Luke Rockhold, franchement, moi, j'aurais trouvé ça super parce que Luke Rockhold, on n'en a pas parlé en podcast, mais qui est lui aussi dans une situation très compliquée avec l'UFC. Parce que là, il a carrément dit, bah, soit vous me trouvez quelqu'un d'excitant, donc sportivement ou au niveau médiatique, ou alors libérez-moi de mon contrat. Enfin, c'est quand même chaud de vous dire un mec qui est ancien champion de la catégorie, il a qu'à l'air en plus vraiment motivé, et ça pour moi ça fait plaisir, tu vois, qu'il puisse revenir dans sa vraie catégorie, à savoir les middleweight, et qu'il se retrouve là sur le bas côté parce qu'il n'y a personne pour lui. Enfin.
Ouais, et puis il n'y a personne, et je pense que l'UFC doit lui proposer des noms, mais qui ne lui conviennent pas, c'est-à-dire que ça va vraiment être des petits nouveaux, mais sans hype, parce que par contre, c'est ce qu'avait dit Rockhold, c'est que bah, soit je prends un nom, donc quelqu'un qui est un vétéran et qui est intéressant et qui est excitant aussi à combattre. Soit vous me donnez quelqu'un qui a quelque chose de spécial. Et c'est là où c'était cool, c'est que Rockhold était en mode « Bah ouais, Ramzat, je suis chaud, parce que visiblement, il y a quelque chose avec ce gars-là, tu vois. » Donc, ouais, non, honnêtement. Et puis en plus...
Mais je comprends pour le coup, Luke Rockhold. Parce que pareil, c'est encore le même cas de ces types qui n'ont plus énormément de combats. Donc chaque fois qu'ils vont faire un camp d'entraînement, ils les comptent, là, aujourd'hui.
Mais non, mais puis en plus de ça... Rockhold, il rajeunit pas, tu vois, clairement. Et lui aussi, il revient de blessures assez sévères, il revient de trucs comme ça. Donc, si tu dois prendre un gars qui est pas forcément probablement dans la forme de sa vie et qui en plus est peut-être un petit peu sur la pente descendante et plus dans son prime, bah, c'est Luke Rockhold. Donc, en fait, quitte à prendre quelqu'un qui est pas forcément au top du top et dans son prime, entre Li Jingliang et Luke Rockhold, bah, il aurait dû prendre Rockhold, tu vois, je pense. Du coup, je comprends pas trop. Il y a sûrement une raison, mais je ne la comprends pas, en tout cas.
Ouais,
ce dont on vient de dire.
Je ne la comprends pas non plus. Pour Luke Rockhold, tu vois, même un mec comme Uriah Hall, ça n'aurait pas de sens pour lui.
Ouais. Non, c'est clair.
Quelqu'un propose, on a Rain, qui propose Rain. Till versus Rockhold.
Bah oui, je suis chaud. Bah oui. Évidemment que je suis chaud, Till Rockhold. Personnellement, il y aurait de la hype, il y aurait du trash talk. Till, il y aurait du trash talk légendaire, ce serait sûr. Et puis même en termes de combat, ce serait juste sublime, quoi. Ce serait sublime.
Et est-ce que pour toi, ils peuvent faire ce combat-là pour le prochain title shot? S'ils le font.
Quoi? Non, Till Rockhold?
Ouais, par middleweight.
Pour le title shot?
Ouais. Le mec qui gagne, ensuite, a le title shot contre Adesanya.
Oui, c'est vrai, parce que finalement, pourquoi pas, mais...
Après Whittaker.
Ouais. Le dernier combat de Till, c'était...
C'était une défaite face à Robert Whittaker.
Ah ouais, c'est ça, et ça commence à remonter, en plus.
Ouais, c'était il y a le 25 mai dernier. Enfin, dernier, 2020.
Oh, putain, mais cette mémoire. Ouais, donc ça commence à remonter. Donc non, pour un title shot.
25 mai, non, 25 juillet. C'est quand on revenait de la Fight Island, on avait fait tous les événements sauf celui-là.
Ah oui, c'est vrai. Ah oui, et puis du coup, on était dégoûté de ne pas voir Darren.
Oui.
Mais oui, oui, t'as raison. Mais non, bah non, du coup, pour un title shot, je pense que c'est chaud entre un mec qui n'a pas combattu depuis je sais pas combien de temps, Luke Rockhold, et qui a quelques défaites dans le compteur, et Darren Till, qui est lui aussi sur une défaite dans la cour, et pour le coup.
Bon bah tant pis, non, mais c'était pour faire en sorte que les gars acceptent, mais moi vraiment je suis assez favorable à ça, sachant que selon toute vraisemblance, on croise les doigts, les deux managers ils sont favorables, les combattants eux-mêmes ils sont favorables. Vettori contre Paulo Costa. Ah oui, non, Vettori contre Paulo Costa.
Ah oui, pour le title shot.
Non non, juste pour que les deux s'affrontent.
Je suis perdu là.
Que les deux s'affrontent.
Ah oui, mais je croyais que c'était fait, moi.
C'est toujours pas officialisé. C'est toujours pas officialisé.
D'accord.
Je trouve que c'est pas mal.
Ouais, ça va être un combat, ça. Ouais, ouais, non, grave. Enfin, deux mecs ultra intenses qui sont des marmules absolues et qui vont être vers l'avant et rien d'autre. Ça va être intéressant.
Eh oui. Alors, question... Oh, bah voilà. Question de... Les gars, c'est le moment, si vous avez des questions, de les poser parce que nous allons bientôt partir avec Ross, donc n'hésitez pas à tout envoyer. Alors, question de Monsieur Tudjarov. Vous... Et c'est une question qui est décernée à Ross, enfin, même si le... L'internaute ne le sait pas. Que pensez-vous de Bryce Mitchell?
Oh! Coquin très bon. Bah, Bryce Mitchell, bah, les gars, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, moi, c'est un de mes petits préférés, personnellement, et je crois que tu l'aimes bien aussi, Guillaume. Mais, alors, bah, pour deux raisons. Sa personnalité et son style de combat. Je suis pas un spécialiste du combat au sol, c'est clair. Mais... Tu vois, il y a des combattants qui te font tellement aimer ça. Enfin, tu les regardes et tu as juste envie d'aller t'entraîner au sol, même si tu n'en as jamais fait, tu vois. Mais il y a des gars comme ça, c'est Bryce Mitchell, en fait. C'est quelqu'un qui est dans le monde du JJB pur, tu vois, c'est des gars comme le Danner d'Esquad, des gars qui ne sont pas là pour gagner au point, ils sont là pour soumettre. Des gars comme Cron Gracie, des gars comme Marcelo Garcia. Eh ben, en MMA, c'est des gars comme Bryce Mitchell. C'est des gars, ils ont vraiment pour but de progresser tout le temps, en fait. Et je parle progresser en combat, de gagner à chaque fois une nouvelle position plus avantageuse pour aller vers une soumission. Et j'adore ça. Et en plus de ça, il sait quelles sont ses forces. Et du coup, c'est ça que j'adore avec Bryce Mitchell, c'est que debout, il fait peur, hein, attention, il n'est pas extraordinaire, mais il arrive à toucher, il arrive à... Mais surtout, voilà, c'est ce qu'il fait de mieux, c'est le sol. Et quand il y va, bah, il a quand même mis, je me souviens de son combat contre Charles Rosa, c'était vraiment impressionnant. Donc, j'adore Bryce Mitchell, j'adore le voir combattre. Tu sais que ce sera spectaculaire, tu sais qu'il va vouloir faire quelque chose. Et puis, en termes de personnalité, les gars, si vous parlez anglais, Bryce Mitchell, c'est une pépite, quoi. Il vient de l'Arkansas, je crois que oui, c'est ça, Arkansas. C'est vraiment un gars de la nature. Enfin, c'est un gars, il adore pêcher, il adore faire des trucs, bricoler, aller dans la nature, chasser, faire des randonnées, faire des trucs. J'adore, je surkiffe. C'est vraiment un gars de la campagne, mais vraiment de la vraie, en plus américaine, tu vois. D'aucuns diraient peut-être à propos de Bryce Mitchell un peu hillbilly, tu vois, mais comme c'est un peu péjoratif, je trouve ça dommage. Mais je le surkiffe. Ses podcasts avec Théo Von, j'adore. Ses interviews sont extraordinaires. Son truc avec le camo short, tu sais, bah c'est génial. Des shorts en camouflage, c'est le seul à en avoir demandé. Il a réussi à en obtenir de l'UFC. J'adore Bryce Mitchell. À propos notamment de Mayweather, quand il avait dit à propos de Mayweather, du coup, dans le podcast de Théo Von, je ne sais plus exactement quels étaient les mots. Je vais vous les dire en paraphrase, mais croyez-moi, c'était exactement le même esprit. C'était à propos de Floyd Mayweather. J'aime pas du tout la manière dont Floyd Mayweather se comporte avec les combattants de MMA. Et en parlant du MMA, quand il en parle, si on était dans une cellule de prison avec Floyd Mayweather, j'en ferais ma pute. Et le matin, il a intérêt à avoir fait les yeux brouillés. C'était ça la quote. Hein. Donc, c'est difficile, comme avait dit Fernand Lopez lui-même, parce qu'il avait réagi, je me souviens. Je crois que c'était sur le post Insta ou un truc comme ça. Ben, c'est vrai, c'est-à-dire que s'ils sont dans une cellule de prison, ben, c'est Bryce Mitchell probablement qui fait le ménage quoi, avec Floyd Mayweather. C'est du MMA, donc il a une chance, Floyd Mayweather, de mettre KO Bryce Mitchell, c'est sûr. Mais si Bryce Mitchell décide, tu sais, genre, il saute de son lit superposé en prison et il va faire une petite Randy Couture versus, comment s'appelle-t-il, le boxeur pro, James Toney. plonger dans les jambes direct, mais vraiment limite dans les chevilles, ou faire une Ryan Hall à la limite, enfin, je pense qu'il n'y a pas grand-chose que pourrait faire Mayweather, tu vois.
Pour en revenir, donc je vais faire la blague pour une deuxième fois, c'était quelqu'un qui avait mis dans le chat qu'on avait des petites infos sur la famille de Bryce, puisque oui, Bryce est le fils d'Eddie, d'Eddie Mitchell. Alors, ouais. Une deuxième fois, c'est un petit peu moins marrant. Oui.
Non, c'est moins marrant. Et du coup, le problème, c'est que on a eu 2 minutes et je cherchais quelqu'un qui finit par Mitchell pour moi aussi rebondir. J'en ai pas trouvé. Donc, avec dont le nom de famille est Mitchell.
Bah,
donc,
n'hésitez pas, si vous connaissez des Mitchell, n'hésitez pas à les mentionner dans le chat. Alors, question de Sarrazin. Rust, peux-tu nous redonner la pépite à suivre? Tu l'avais donnée à la fin d'une vidéo que je ne retrouve plus il n'y a pas longtemps. Et je disais que justement, il y aura un petit podcast qui devrait lui être dédié.
Shavkat Rakhmonov, voilà, c'est lui. Kazakh ou Ouzbek? Kazakh, je crois. Bref, de toute façon, c'est pas très important, c'est pas pour ça que vous êtes là pour savoir si c'est Ouzbek ou Kazakh, c'est justement, bah, en fait, il est, je crois pas qu'il s'entraîne dans une grosse team, et faudra que j'aille faire plus de recherches pour savoir exactement d'où il vient, disons de quelle team, mais il est impressionnant. Il a, je crois, 25 ou 26 ans. Il est charismatique, ce qui est très cool. C'est-à-dire que je crois qu'il parle pas encore bien anglais, il me semble, mais il est déjà très charismatique, il fait des punchlines, etc. Donc c'est déjà un bon signe. Ça, c'est pour la partie un peu personnalité qui fait qu'il peut monter très vite. Et en plus de ça, et c'est surtout ça qui va probablement, quoi qu'il arrive, monter, et monter à mon sens très loin, c'est magnifique. Ce qu'il fait est magnifique. Il a, et c'est du MMA. C'est-à-dire que c'est pas comme si on avait découvert un Wonder Boy, en fait. On a découvert un mec qui est extrêmement complet, très bon dans tous les domaines, même si je l'ai pas encore, je crois, vu beaucoup au sol, mais en clinch et en transition, il est incroyable. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment attiré l'œil, c'est la propreté de ce qu'il fait. Il a un œil, il a un fight IQ, il a une manière. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as vu?
Dans le chat, là, on a la palme. Merci à vous pour ce moment. Donc, dans les Mitchell, donc c'est Flantier94 qui nous dit ça. La mère Mitchell.
Ah putain, le sniper!
Ah bah voilà. Bon, allez, on se poursuit. Oh là là!
Oh le missile! Oui, non, et donc effectivement, il est très 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 propre. Et en fait, c'est vraiment, tu sais, c'est ce que disait Georges Saint-Pierre, c'est ce qui fait la différence, c'est prendre les bonnes décisions au bon moment. Et t'as vraiment une impression qu'il a un coup d'avance sur ses adversaires, Shavkat. Et juste sa manière de bouger, sa mécanique de frappe, il a l'air d'avoir un très bon fight IQ, le fait qu'il est extrêmement complet, et en plus, il a l'air d'avoir déjà une certaine patience, mais qui n'enlève rien au fait qu'il arrive pour te finir. C'est-à-dire que, par exemple, contre... j'avais été voir la dernière fois, Prazeres, je crois, c'est ça, le Brésilien qu'il a affronté, il y avait un énorme gap de taille la dernière fois, il a été très patient. Il a été vraiment méthodique et patient, mais par contre, quand il attaque, c'est vraiment, bah, pour le coup, c'est vraiment beau à en pleurer, parce que tu vois, tout est vraiment fait de la manière la plus intelligente, la plus précise, la plus impactante possible. Il a des genoux, c'est monstrueux, avec un timing incroyable. Il a une pression qui est magnifique. Il utilise parfaitement sa taille et son allonge. Et ses enchaînements en anglaise, ses transitions avec les pieds, les mains, les genoux et la lutte, et son clinch aussi est vraiment bon. Il y a un truc. Il a, je crois, le X-Factor.
Bah voilà, les gars. Si ça ne vous a pas convaincu, je ne sais pas ce qui peut vous convaincre.
Oui. R-A-K-H, je crois. R-A-K-H-M-O-N-O-F.
Exactement. Puis de toute façon, Google est votre ami. Je pense qu'on en a terminé pour cette petite session, mon cher Rust. On reviendra mercredi. Mercredi, est-ce qu'à 18h mercredi, ce serait possible, Rust?
Je dois aller filmer un truc, je crois, mais j'espère être revenu.
Et si ça le fait, on sera en présentiel au studio. Rendez-vous compte.
Ça, ce serait beau quand même.
Ouais. Voilà, donc on répondra à vos questions et puis on aura un petit thème, je pense, cette fois-ci. Donc n'hésitez pas, mercredi, 18h, rendez-vous sur Twitch. Coquelette, qui avait fait une petite remarque, un adversaire de prévu contre Diaz, on l'a dit, c'est Nick Diaz contre Robbie Lawler, combat en 5 rounds, revanche qui arrive 14 ou 16 ans après le premier combat. Bah voilà, la sueur brise le Twitch game, et bien on espère bien. Non, pour l'instant c'est quand même assez compliqué, on parle quand même de mecs qui s'auto-mute. Donc voilà. Bah, le premier live était bien meilleur, bah je sais bien, mais on avait Ben qui était avec nous, on était présents au studio, les gars. Ça va arriver, ouais. Step by step. Allez, à très très vite pour de nouvelles aventures. See ya, ouais. Big Rusty. Big shout out à my sweet pea. Big shout out à Venom, sponsor de l'UFC. Et sponsor de la sueur. Allez, we are out of this game. See
ya. Out of this bitch.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.